Vous écoutez France Culture.
France Culture.
C'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Marc.
Et ce matin, quand les statistiques économiques parlent pour ne rien dire.
Oui, c'est la Banque mondiale qui a lâché la bombe, tenez-vous bien. L'ère de la domination économique mondiale des États-Unis serait en passe de s'achever au profit de la Chine, et bien plus vite que prévu, à en croire les organismes statistiques internationaux, puisqu'après avoir réactualisé ces données, la Banque mondiale affirme que la Chine aura détrôné les États-Unis à la fin de l'année au rang de première puissance économique mondiale. Alors évidemment, étant entendu que l'Amérique occupait la place depuis 1870, l'événement est historique, mais peut-être pas aussi important que d'aucuns semblent le craindre ou l'espérer. Et pourquoi ? Parce que si cette tendance fait aujourd'hui l'unanimité, deux experts du Financial Times interrogés dans le mensuel La Revue s'interrogent sur les méthodes de calcul choisies par la Banque mondiale. Parce qu'avec 1,340 milliard de Chinois en 2011, l'Amérique et ses 321 millions d'habitants semblent bien modestes par comparaison. Voilà donc ce qui expliquerait qu'en agrégeant le pouvoir d'achat de tous les habitants, on obtienne un PIB chinois en parité de pouvoir d'achat égal à 87% de celui des États-Unis en 2011, et autant dire qu'aujourd'hui, trois ans après, la Chine est donc très certainement passée devant. Alors on peut débattre, bien entendu, de la validité de ces données, mais l'estimation, elle, paraît raisonnable. La vraie question, en revanche, serait plutôt: que signifient ces nouvelles données? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'elles ne signifient pas? Non, la Chine n'est pas encore la première puissance économique mondiale. C'est un géant commercial, certes, mais c'est la taille globale du marché intérieur qui détermine l'influence d'un pays. La Chine n'est pas encore, de fait, le premier importateur mondial, même s'il est très probable qu'elle le sera bientôt. Le stock de devises étrangères est aussi un indicateur de la puissance d'une nation. Et sur ce point, c'est vrai que la Chine impressionne avec des réserves estimées à 4000 milliards de dollars. Sauf que c'est autant une force qu'une faiblesse, car Pékin accumule des devises venues de pays occidentaux qui peuvent continuer à produire de la monnaie d'un claquement de doigts. Et s'il prenait l'envie aux Chinois de jouer contre certaines de ces monnaies pour en faire baisser le cours, ils seraient les premières victimes de la manœuvre. Enfin, on pourrait aussi évoquer le montant des dépenses militaires et la puissance qui en découle. Mais là encore, l'écart est immense. Et surtout, les États-Unis sont dans une situation bien plus confortable sur le plan géopolitique. Schématiquement, ils apparaissent quasiment comme une île bordée au nord et au sud par des voisins faibles et surtout amicaux, tandis que la Chine, elle, est entourée de pays souvent puissants et plus que tout jaloux, en clair. Et même si la taille de l'économie chinoise va continuer à croître, poursuit l'article, il se passera encore bien des années avant que ce colosse émergent n'acquiert une influence sur le reste du monde comparable à celle des États-Unis. Voilà pourquoi, précise le rédacteur en chef du Financial Times en Asie, même si la Banque mondiale vient en quelque sorte de forcer la Chine à faire son coming out et à admettre qu'elle est devenue la première puissance économique du monde en parité de pouvoir d'achat, les médias, eux, loin de s'extasier, ont plutôt minimisé l'événement, certains préférant carrément le passé sous silence. Même la Chine, d'ailleurs, a très peu apprécié la publication de ces chiffres. Selon l'un des statisticiens responsables du rapport, qui s'est exprimé anonymement dans la presse anglo-saxonne, les autorités de Pékin voulaient mettre toute l'étude au panier. Et pourquoi les Chinois ne souhaitaient-ils pas apparaître officiellement comme le numéro un mondial? Parce qu'ils redoutent de devoir endosser les responsabilités politiques qui accompagnent un tel statut, ce qui est en soi sans doute beaucoup plus éclairant que la nouvelle place supposée de la Chine au palmarès des puissances économiques mondiales. Alors ce n'est pas la première fois que se pose ainsi la question de la pertinence des indices qui mesurent le développement des sociétés. Le petit royaume du Bhoutan, par exemple, a voulu se distinguer en instaurant un indice du bonheur, et c'est ainsi que le produit national brut a été officiellement remplacé par l'indice de bonheur national brut. Sauf que dans les faits, précise le Courrier Japon, un Bhoutanais sur quatre vit dans la pauvreté avec moins de 2 dollars par jour et 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 sont sous-alimentés, sans parler de la répression menée contre la minorité népalaise. En d'autres termes, cet indice serait davantage un outil politique qu'un véritable outil de mesure de la réalité. Enfin, dernière méthode de calcul en date qui pourrait faire bondir là encore la richesse de certains pays. À partir de septembre prochain, tous les pays membres de l'Union européenne devront inclure des activités illégales dans le calcul de leur richesse, comme par exemple le trafic de drogue, la prostitution ou la contrebande. Allez savoir pourquoi, c'est l'économie italienne qui devrait bénéficier le plus de cette évolution. Le PIB du pays pourrait ainsi augmenter de 10%. Et puis en Espagne, cette fois-ci, précise le journal en ligne Publico, la prise en compte de l'économie parallèle pourrait faire là aussi bondir le PIB national de 4,5%. Alors faut-il pour autant s'en réjouir? Le journal El País juge cette initiative peu judicieuse, car dit-il, non seulement cette forme de calcul laisse à désirer, mais elle est peut-être, qui plus est, elle peut être facilement manipulée. Seulement voilà, Comme toujours, le gouvernement, lui, met la main sur tout ce qu'il peut. Et de fait, avec les modifications comptabilisées par cette nouvelle méthode de calcul, le PIB espagnol augmentera, tandis que la dette, elle, chutera automatiquement et que le déficit passera même sous la barre des 6,5%, l'objectif fixé en l'occurrence par Bruxelles à Madrid. En clair, conclut le journal, les statistiques s'en trouveront embellies, mais dans les faits, il n'y aura pas d'amélioration pour l'économie réelle ou quand les chiffres des statistiques économiques parlent pour ne rien dire, ou presque.